Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Maxime. Maxime, ça va ?
Oui, ça va, la pêche, le citron, tout.
Toujours professeur de physique, toujours heureux, toujours...
Disons qu'à l'enregistrement du podcast, oui, je suis très heureux, toujours professeur. Ce qui est bizarre, dit dans la même phrase, mais...
Nous sommes également avec Morgane Régnier, autrice, je ne sais pas s'il faut dire autrice ou auteur.
Moi, je dis auteur.
Auteur de Chrysopée, un jeu épistolaire. Et nous sommes également avec Flavie. Flavie, ça va la pêche ?
Ouais. La banane.
Aujourd'hui, c'est un podcast sur sens. On va parler avec les spécialistes de sens que vous êtes. Hein. Flavie, une des premières choses de sens. Maxime Morgane, exégète de l'exalogie, s'il en est. Nous allons parler d'un personnage aujourd'hui. Un personnage qui s'appelle Chrysaor Orion. C'est toi, Morgane, qui viens avec ce sujet de podcast dans les bagages.
Ah oui.
Alors Chrysaor, mon amour, j'ai presque envie d'appeler ce podcast comme
c'est
ça.
C'est un excellent sous-titre.
Quand on parle de Chrysaor, on voit tes yeux qui s'illuminent.
Est-ce que tu as déjà vu la première base de sens, la base Oni, la base...
Alors, j'ai vu la couverture, j'ai jeté un œil très discret, mais comme j'ai eu très très peur de perdre de la salle...
Il faut savoir que dans la première base de sens...
Ça commence.
Le Chrysaor était très androgyne, avec une boucle d'oreille. Et il y avait un trip sur la boucle d'oreille, je crois qu'il la portait à droite, et il faut se la porter à gauche. Et il était genre, salut, je suis un boys band, quoi, tu vois.
Ça m'étonne pas de lui.
Il est parti chercher...
Il y a un petit côté, du coup, ça me fait beaucoup penser à... Dans Highlander, tu sais, comment il s'appelle, le mentor.
Le mentor.
Ah bah oui,
Sean Connery.
Ah oui,
avec sa boucle d'oreille.
Je sais pas du tout comment. Ramirez.
Sauf que en très jeune, c'est genre un peu manga avec la. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer avec cette quoi. Genre c'était.
Combien que je te paye pour pouvoir jeter un œil à cette base.
Mais je crois que Rome me l'a retiré ma base.
Mais bien sûr. Et carrément, je vais chez toutes les personnes à qui j'ai vendu cette base.
Tu peux aller chez moi parce qu'on habite au même endroit, figure-toi.
Non mais c'est n'importe quoi. Enfin, non, je ne t'ai pas.
Non, t'as fui de cette attaque.
Écoute, attends. Je vais te la chercher. Si je la trouve, je te la montre.
Ah oui.
Alors, d'accord. Bon, attends. Je crois elle est
moi,
pas
je
dans
le vois
placard.
Exactement comme ça avec les cheveux en pique blanc, attends. Tu vois, la coupe renarde.
Ah oui, d'accord.
Donc, je te trouve l'image avec quoi on illustrait, parce que nous, on avait des photos pour présenter tous les PNJ, ou des dessins d'ailleurs. Et j'avais trouvé une image de Chrysaor sur mon ami Google, là. Et c'était trop, trop bien.
Moi, je l'imagine un peu comme la personne de Castlevania, un personnage de Castlevania.
Donc, vous aurez la photo en sous-titre du podcast, sûrement.
Non, certainement pas.
Vous cherchez voilà, To Be Free sur Google.
Je rappelle que dans cette base, Sens se jouait au D12.
Mais oui, tout à fait. Alors, c'est ça que tu es venu dire dans ce podcast, Flavie.
Bien sûr.
C'était ça le grand truc, parce qu'elle nous a dit
rigolo,
oh, j'allais avoir un truc à dire, vous avez.
De toute façon,
j'ai vu
Rome, Maxime qui disait.
Parle de cette base, on précise qu'elle a été jouée au D12.
De toute façon, oui, j'ai vu Maxime qui disait non, un sujet central. Mais t'inquiète, je suis là.
Attends, par contre, j'arrive pas à retrouver. Alors là, tu me prends complètement
de
cours.
Table des matières, on dirait un JDR tradi.
C'est un jeu de rôle traditionnel, sans on le rappelle, hein.
Cette base est en format A4.
Vous qui espériez un podcast construit.
C'est ça, c'était censé être.
Ouais, mais non, ils ont entendu ma voix, ils savaient très bien
couper
que ce serait pas comme
ces
ça.
30 premières.
Non.
Je veux dire, c'est le moment où vous parlez en même temps et on peut pas comprendre ce qui se passe.
On en a rien à foutre.
Rien n'est coupé, je ne trouve pas. Alors, c'est très simple, je ne trouve pas un chapitre en tout cas consacré à ce personnage.
Quoi ? Il n'y a pas de chapitre sur
Chrysaor Orion, page 42.
Qu'est-ce que c'est que cette espèce de voix bizarre ?
C'est page 42 en plus.
Ah bah voilà.
C'est un signe, je viens de perdre au jeu et vous tous également. Alors, hop, voilà. Alors, c'est ça, soi-disant, le boys band. Alors, expliquez-moi parce que là, je vois.
Il fait un peu de J-pop quand même, hein.
Ah ouais, bravo. C'est vrai, il y a un petit côté.
C'est la coupe Playmobil, mais avec une mèche, quoi.
Ok.
Ouais,
okay.
Et la boucle d'oreille.
Il a la mèche de l'autre côté de Miphos en plus.
Et la boucle d'oreille. Mmh. Ouais, c'est pas mal, il y a de l'idée. Moi, je le vois beaucoup plus politicien hollywoodien, mais il y a de l'idée.
T'avais pris quoi, du coup, toi, comme image ?
Oh, faudrait que je te la retrouve. C'est un acteur, il a les cheveux argentés, mais il fait très jeune visage et il a les yeux gris. Et donc, du coup, c'est un peu un homme sans âge. Tu vois, ça fait homme
mûr, tu vois. Il a l'air expérimenté.
Il a l'air d'avoir une quarantaine d'années, mais tu saurais pas trop. Et du coup, je trouvais que ça collait assez bien au personnage.
C'est le mec qui dit, j'ai que 30 ans, tu le crois, quoi.
Et finalement, j'en ai 70. Waouh, t'es bien conservé.
En fait, 452.
Je crois qu'il en a un peu plus que ça.
Je pense, oui. Alors oui, effectivement, peut-être commencer par une petite présentation. Qui est Chrysaor, Orion ?
Eh bien, le meilleur personnage de la base.
Oh. Oh, comme vous y allez, direct.
Né en 1982 et allant au lycée polytechnique.
Alors, on va peut-être justement découper ce podcast en deux parties. On va parler d'abord du Chrysaor de Sens Renaissance et puis on parlera du Chrysaor de Sens Mort. Parce que je pense qu'il y a deux Chrysaor et puis évidemment, à travers ces deux grandes parties dans ce podcast, on abordera Chrysaor dans tout le développement de Sens. On parlera peut-être aussi du Chrysaor de Sens Cosmo plus tard, sans trop spoiler, parce qu'on ne sait pas encore si nos auditeurs auront lu la base au moment où ce podcast sera diffusé.
Et Fly n'a pas bu, on est perdu.
Donc, on va découper les choses comme ça. Dans Sens Renaissance, d'abord, Chrysaor, c'est un des membres du Conseil de la Résistance. Donc, le Conseil de la Résistance, qui est l'état, hein, en gros, de la Résistance, de la rébellion contre le tyran qui est Miphos Kadria.
Moi, je sais qu'à ma table, on n'avait pas confiance en lui. On ne sait pas pourquoi. Mais on n'avait pas confiance en lui.
Il est présenté comme un double jeu, un espion qui est en double jeu. Alors, et comme dans tous les bons films, un mec qui est en double jeu, il est peut-être en triple jeu.
Donc voilà. On n'avait pas confiance en lui.
Comme dans Metal Gear, l'agent double schizophrène.
J'ai pas joué à Metal Gear.
Ah, mince, d'accord.
C'est bizarre, ça me rappelle
celui du Snake, Liquid du Snake.
Oui, c'est ça. C'est ça. T'as un personnage.
Mais c'est qui ce mec, Liquid Snake?
Alors donc, pourquoi est-ce que effectivement les joueurs lui font pas vraiment confiance au départ ? C'est parce qu'effectivement il a ce rôle d'agent double. Qui est Chrysaor Orion ? C'est tout simplement le membre du Conseil de la Résistance qui permet.
Et quel membre ?
D'accord.
Maxime, il a vu dans ma tête.
Qui permet de faire la liaison avec l'Empire et notamment de récupérer pas mal de matières premières, de denrées alimentaires, de matos, parce qu'en fait. Il est l'administrateur de Sydney, qui est une ville qui, en théorie, est occupée par l'Empire de Miphos Kadria. Et lui, en même temps qu'il est administrateur et donc membre de la noble chambre sur Mars, il est duc. Ce qui signale le fait
C'est tellement Lady Oscar, quoi.
Ouais.
Chrysaor Orion. Il ressemble un peu à un garçon. Chrysaor Orion.
Ah, tu me permets,
la résistance n'oubliera jamais ton nom.
Donc du coup en tant que
le bordel. Les chansons c'est après le générique.
Putain, mais c'est pas possible quoi. Alors vous arrivez avec un thème. Alors les filles. Alors là, je viens de dire que là, c'est fort.
Attention,
c'est
attention.
Les filles, vous arrivez avec un thème de podcast. Vous me dites, on a envie de parler. Non, attendez. Vous dites, oui, on a envie de parler de Chrysaor Orion, ça va être trop bien et tout. Nous, on diffuse, on est contents, vous filez les micros, il n'y a pas de problème, ça va être super le podcast. Et qu'est-ce que vous nous faites ? Vous nous faites ça.
Ça s'appelle de la comédie musicale, monsieur.
Donc voilà. Donc merci.
Non, ça s'appelle
merci.
du talent.
Alors, la prochaine fois que tu arriveras avec un sujet de podcast dans les poches, Morgan, je ferai très attention. Hein. Je serai très très méticuleux. Donc, Chrysaor Orion, on peut peut-être revenir au sujet. Hein, non.
Faites. Chrysaor Orion est très méticuleux.
Alors, Chrysaor Orion n'est pas un personnage inspiré de Lady Oscar, pas du tout.
Pourquoi ce nom déjà ?
Alors, le nom vient du personnage de Karim dans la première base de tout premier sens, qui date de 1999, attention ! Dans le premier sens, Space Opera, il avait joué un personnage qui s'appelait Chrysaor Orion, et je vous donne en mille, son frère s'appelait Miphos. Donc là, déjà, voilà, on retrouve...
Donc, en fait,
deuxième point,
nom de... le personnage... ce nom de Miphos ne vient pas de toi, en fait. C'est...
Le nom Miphos vient de moi, le nom Chrysaor ne vient pas de moi. Ou c'est peut-être l'inverse, je ne sais plus.
En tout cas, si Karim a trouvé le nom, c'est vachement beau, quand même.
Alors, c'est moi qui lui ai proposé de s'appeler Chrysaor en tant que prénom. Et je me souviens très bien pourquoi. C'était à cause de... À l'époque, on jouait à un jeu sur Super Nintendo qui s'appelle... Illusion of Time, connu aux US sous le nom Illusion of Gaia, je crois, et qui est un jeu dans lequel on joue un personnage qui s'appelle Paul. Alors là, tenez-vous bien, parce que vous allez voir plein de trucs assez amusants, qui a le pouvoir de se transformer en différents types de personnages, dont un s'appelle Chrysaor, et est un gros chevalier blond en armure façon Finfinger, si on veut, sauf qu'il est blond et pas brun. Et un autre personnage s'appelle Liquefia, qui se liquéfie, etc., et qui donnera plus tard... la fameuse espèce des fragiles. dans, alors je vous parle de la version de Sens de 1999.
Celle avec la fin pas du tout écolo.
C'est ça, celle avec la, exactement, c'est le jeu avec cette fin what the fuck, où à la fin c'est, oui, les rivières sont changées en route, les arbres et les forêts sont devenus des villes, mais les gens sont heureux, voilà, c'est
mais
ça.
Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre?
Et donc, alors,
prends un peu de pétrole.
Pour défendre le jeu est sublime, il est très très beau, il y a des super musiques, enfin il y a plein de points super positifs, en plus c'est un jeu qui réenchante un peu le monde parce qu'il utilise les légendes précolombiennes et les énigmes autour des grandes civilisations de la Terre pour proposer un univers cohérent. Et c'est un petit peu une espèce d'exploitation de la théorie du complot, tu sais, de tous les grands bâtisseurs de la planète déjà à l'époque dans un jeu vidéo pour en faire un RPG autour de la comète qui revient. Enfin, il y a plein de thématiques de notre univers contemporain qui sont super intéressants. Oui, enfin non, il n'y a pas des reptiliens, mais il y a l'équivalent, fantomatique. C'est très intéressant. Non, c'est un jeu qui est très intéressant. Donc voilà. Et le nom Chrysaor vient de ce personnage du chevalier de Chrysaor qui était. Donc pas du tout Lady Oscar. Désolé. Déjà mauvais point. Ce n'est pas ça. Et le Orion. Alors là, je crois
quand
que
même.
Je crois que c'est Karim. Il faut rappeler quand même qu'on était dans notre grosse période Saint Seiya à l'époque, hein, en 1980.
Vous deviez avoir 17 ans.
Oui, c'est ça. Donc, Chrysaor Orion, ça nous semblait assez classe. Hein. De la même manière que
il y avait beaucoup de
Miphos Cadreia, Soren Seipsis, ça paraissait très classe à l'époque.
Ça l'est toujours.
Ouais, ça s'est discuté sur
Miphos, à part les jeux qu'on peut accoucher dehors.
Voilà, il y a des gens qui pensent que
c'est vrai que Longfinger, c'est peut-être un peu mauvais goût, mais...
Bah écoute, Littlefinger dans Game of Thrones, ça passe nickel. Alors, on va pas me faire chier.
Oui, mais parce qu'il y a la gueule du personnage aussi.
Oui, bah t'as vu la gueule de Finn Longfinger. Oui,
il est pas beau, Finn Longfinger, normalement. Il est pas baraqué, tout fin.
Littlefinger, tu
vois. Même pour moi, Finn Longfinger, il est pas forcément super beau. Pour moi, c'est l'archétype du vétéran avec les traits creusés. Le mec, il est pas là pour être beau, il est là pour
imposer. Un peu comme dans la guerre de Lodos.
Ashram. Ouais. Et je vous rappelle que c'est donc un podcast sur Chrysaor Orion.
Mais tout est lié.
On va finir par y arriver.
Et donc Chrysaor Orion, cet agent double, administrateur de Sydney, fournit du matériel à la résistance. Mais il y a toujours ce petit côté, est-ce qu'il est dans le conseil de la résistance pour aider les résistants ou est-ce qu'il est dans le conseil de la résistance pour permettre éventuellement à Miphos de s'informer sur le devenir de la résistance? Et oui, c'est un agent double. Donc,
Nobody knows.
Voilà. Bon.
Alors, il faut aussi rajouter que dans la base de Renaissance, il est indiqué que c'est lui qui donne des cours de politique et des choses d'histoire de l'Empire.
Dans la base de Sens Renaissance à Descens Renaissance.
Ils expliquent quels sont les différents cours que suivent les bugs en fonction, Soren Solipsis c'est la biologie, d'accord, Maria c'est la médecine, okay, et la politique c'est Chrysaor Orion.
Voilà.
Alors, par visioconférence, hein, si on veut, parce qu'en théorie, il ne peut pas se déplacer
dans la base.
En
théorie, c'est plus complexe. Ouais.
Il ne peut pas se déplacer dans le sud.
C'est précisé dans la base, par visio.
Alors donc le duc Orion, c'est un personnage qui a l'avantage d'être déjà impliqué dans la politique martienne. C'est-à-dire que lui, il a déjà une place au conseil, à la noble chambre justement sur Mars. Donc effectivement, il connaît déjà, et ça c'est son gros avantage par rapport au personnage des joueurs, c'est que lui, on sent qu'il connaît déjà ce qui se passe sur Mars en fait, et ce qui se passe déjà dans la politique impériale. Donc c'est son avantage au conseil, et c'est évidemment, et c'est pour ça que probablement j'avais décidé. Je savais pas que dès Sens Renaissance c'était précisé, mais voilà, je l'apprends. Donc
c'est pour ça que tu as même écrit le livre.
Ouais, il paraît que j'ai écrit ce livre. Ouais. Mais c'est tellement loin maintenant que voilà, il est possible que vous m'appreniez des choses sur le contenu du livre, comme c'est le cas maintenant. Donc dans Sens Renaissance, est-ce qu'on le voit beaucoup?
Ça dépend.
Alors.
Toi, tu as eu une table qui a joué énormément avec lui.
Ouais.
Parce que quand vous avez deux tables, si vous voulez vous arranger pour que les deux tables se rejoignent après, c'est bien d'avoir une table qui suit...
Gladius Ward
et une table qui suit Chrysaor Orion.
Ouais.
Alors, dans la base, non. En fait, je crois qu'on le voit deux fois. Dans la présentation du conseil et pour les révélations finales autour de Soren Solipsis à la fin.
D'accord. Il arrive, c'est dans la même scène, t'as deux mecs en capuchonné mystérieux, quoi. T'as Finn Longfinger et Chrysaor. Le mec, il a jamais parlé, il fait « Tiens, salut ».
Ah oui,
voilà. On a le même tailleur.
Je m'en suis pas...
On te voit plus aux soirées.
Je m'en suis pas rendu compte. Ah oui, il est en capuchonné dans la scène du conseil.
Non, je sais pas, mais moi, je l'imagine trop. De toute façon, c'est la première fois que tu l'entends parler. Il parle comme s'il savait tout. Ouais. Du coup, ça fait genre le mec, ouais, j'ai toujours été là. C'est genre le mec, il est toujours dans un coin, il t'a toujours observé. Oui.
C'est le mec, quand tu sors des toilettes et que tu t'es pas lavé les mains, il fait
ah. Il y a un rôle, il a quand même un rôle majeur pour la résistance. C'est-à-dire, sans lui, souvent, on le dit, je crois que c'est dit dans la base.
Moi, je le vois comme un mec,
il y aurait pas de résistance.
Voilà. Sans lui, ouais. C'est dit dans la base. Sans lui, déjà, tout le monde crève de faim.
Voilà, c'est ça.
Oui, parce que c'est lui qui apporte tous les petits suppléments qui font que c'est supportable au pôle sud, et c'est ce qui permet aussi d'avoir un coup d'avance. C'est-à-dire que comme il transmet des infos, il est capable de dire bah à ce moment-là vous pouvez agir parce que voilà.
Oh, on l'avait déjà
il
dit,
évite
mais
un massacre quand même. Hein.
Pardon.
Alors Cédric, il était persuadé que c'était un méchant. Et donc en fait
Cédric il jouait à Agonis, c'est ça?
Ouais.
Ça m'étonne pas.
Et du coup Agonis essayait toujours de monter des missions espionnage en fait pour auxquelles Thomas et moi, donc Lina de Cali et Marius, on faisait Oui, vas-y. Et du coup, on les jouait pas parce que c'était en dehors des scénars. Ils disaient, mais si, je te jure, il va nous faire un gros truc dans le dos et tout, faut qu'on aille l'espionner. Non, ouais. On cède. Non.
Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans toutes les tables. Cette méfiance à l'égard de ce personnage qui
et
semble
pour moi,
en savoir
les gens
beaucoup trop.
Qui se méfient de ce personnage-là sont les mêmes qui se méfient de Solipsis. Dès qu'un personnage, il a l'air de savoir des trucs, dans le sens, les gens, ils ont envie de le buter, quoi. Je sais pas pourquoi.
Rétention.
Les gens n'aiment pas savoir. N'aiment pas ne pas savoir.
Ouais.
Et voilà, c'est un truc de notre
société.
Oui,
parce que la rétention d'informations passe pour de la manipulation.
Et du coup, je pense que d'accord. De la même façon que pour Solipsis, faut faire un petit peu attention, sinon il y a des joueurs qui peuvent vraiment détester ce perso. Chrysaor Orion, faut qu'il soit bien présenté, hein, parce que faut lâcher rapidement des infos, mais pas trop sur lui, de façon à montrer que c'est un mec bien, ça va.
En général, moi, je fais un Chrysaor qui, même quand il discute avec les bugs, il dit non, ne m'en dites pas trop. Vous savez, moi, je suis accessible à l'Empire.
Ouais.
S'il me chope et qu'il me torture, je pourrais révéler des trucs. Ne m'en dites pas trop, s'il vous plaît. De la même façon, moi, je vous dis pas tout, parce que si jamais on vous capture, je veux pas que vous puissiez tout balancer.
Ouais, c'est pas inintéressant, ça.
Ouais, c'est de l'affectivement.
Voilà, dites-moi ce qui est important pour la mission tout de suite. Moi, je vous dis ce qui est important pour la mission tout de suite. Et voilà, il dit la culture du secret, c'est aussi une culture de la survie.
C'est ouais, une bonne façon d'éviter que les joueurs en fait le détestent.
Bah ouais. Mais moi ce que je fais aussi c'est que ce qu'on disait c'est que nous souvent on fait pour introduire les persos, tu sais, on fait un flashback, on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, et parmi les flashbacks qu'on fait au début, les bugs sont à chaque fois sauvés in extremis par un personnage. Il y en a un c'est Gladius en général, il y en a un c'est Maria, il y en a toujours un c'est Chrysaor. Et Chrysaor pour sauver en général c'est qu'il y a une troupe de l'Omicron qui arrive. Et Chrysaor repère un gamin qui s'est donc le petit bug qui s'est caché dans un coin, et il oriente la troupe de l'Omicron de l'autre côté.
Ouais.
Et le gamin voit clairement que ce mec qui a l'air d'avoir un manteau
de l'Omicron
a clairement orienté de l'autre côté.
Ah c'est sympa.
Et
ça.
Du coup ça fait qu'il y a une confiance qui s'instaure quoi, parce que bim il se dit bah ce mec là s'il joue triple jeu il se prend la tête quoi, parce qu'il aurait pu me buter il y a bien longtemps.
J'avais
quoi.
Jamais pensé que Chrysaor Orion puisse faire partie des troupes mobilisé par Mifos Quadriga à la Nouvelle York, mais en fait
moi,
c'est tellement
logique.
Logique.
Je sais pas, comme il y a pas beaucoup d'infos là-dessus dans le.
Il y en a pas, il y en a pas, mais ça permet de le faire débarquer parce que ça, enfin, quand tu es double jeu,
ah, putain,
le mieux c'est d'être sur place directement pour t'assurer que ça aille, tout en ayant l'air de gérer les choses, quoi.
Attention à ton micro, Morgane. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, carrément, c'est super intéressant. J'avais même jamais pensé que Mifos. En fait, dans ma tête, l'attaque de la Nouvelle-York, c'est un débarquement de Mars presque, ou de Sélénée, vers la Terre. J'avais jamais pensé qu'en fait, ils puissent mobiliser, par exemple, déjà les Mantères, les Sauragol, les Tiganis qui vivent à Berlin et Paris, toute cette noblesse terrienne, en fait, qui exploite la Terre au nom de l'Empire. Tu vois, c'est marrant. Et là, du coup. Dans ce contexte-là, le perso qui est sauvé par Chrysaor, lui, ouais, il lui fait, il fera confiance automatiquement. Il n'y aura pas cette suspicion. D'accord, ça c'est vachement intéressant. Alors moi, la solution que j'avais trouvée, c'est celle qu'a exposé Flavie tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai carrément mis une team de mes PJ, c'est-à-dire Nathaniel, Protecteur, Gabriel et Skunk, avec Chrysaor. C'est-à-dire, en fait, ils étaient briefés dès le départ. Leur but, c'était d'effectuer des missions en fait pour Chrysaor. Et donc eux, ils ont vraiment joué un autre côté, un autre pan de la résistance. Ce qui est intéressant avec Sydney, c'est que c'est une ville qui est très... alors je me suis inspiré du théâtre, le côté théâtral de Sydney, parce que ce qu'on retient à l'étranger de Sydney, c'est le théâtre de Sydney, quoi. Enfin, tout le monde ne pense qu'à ça. Et donc du coup, ça m'avait inspiré quand j'étais plus jeune, et je me suis dit, bah ouais, il faut que ce soit une ville qui soit tournée justement vers le faire semblant, quoi. Faire semblant d'être de l'Empire, etc. Donc il y a toute une dimension, conserver le secret de cet administrateur qui joue double jeu, voilà, que le bug aussi a influencé forcément, puisque lui il a d'ores et déjà disparu de l'ombre monde, puisqu'il est en contact direct avec la résistance et tout, et donc il peut faire des choses intéressantes, même du point de vue de la noble chambre et tout ça.
Sur la table de Maxime où j'étais PJ, j'ai effectué... Enfin, c'était pas vraiment un scénar solo, parce que du coup, comme on vit tous les deux dans le même endroit, c'est un peu... C'était pas vraiment un scénar. Ça s'est fait par petits paragraphes, choses comme ça. Et mon personnage a passé 6 mois à Sydney, parce que j'avais créé un personnage qui était un peu ambivalent, à la fois très, très militaire, elle avait été sauvée par Finland Finger, et en même temps très attirée par le côté journaliste, chroniqueuse, elle avait monté un journal. Et en fait, du coup, elle a suivi des études à Sydney, c'est-à-dire que sous une identité de couverture, d'accord, elle a été envoyée à Sydney pendant que ses camarades s'occupaient de la Nouvelle-York en reconstruction. C'était après l'épisode de Graveur. Et elle a suivi des études sur place, et donc elle était, elle a été major de promo. Et elle a travaillé avec Chrysaor comme stagiaire, ce qui lui a permis aussi d'acquérir des informations, des choses comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle a noué une relation amoureuse avec Chrysaor Orion.
D'accord. Ah, ça tombe bien, tu me fais directement un super pont pour la prochaine chose dont je voulais parler.
Je t'en prie.
Chrysaor Orion, pour moi, c'est un vrai atout pour Sans ta Barbara.
Oh, ah, c'est clair.
Chrysaor Orion.
Il a du love à donner.
Si t'as pas une histoire d'amour avec Météor, tu peux en faire une avec Chrysaor. Ah, t'es un peu secret, mais quand même, je te kiffe. On va vivre un secret tous les deux. Super, quoi.
C'était plus ou moins ça. En fait, comme j'avais déjà lu Sens, je me suis dit, quitte à faire, parce que du coup, tu crées un personnage. C'est toujours un peu compliqué d'être joueur en ayant été MJ.
Un peu perturbant de faire un dialogue par PC avec sa chérie alors qu'elle est à côté pour écrire des scènes de drague. Mais ça se fait.
Alors, comment tu t'appelles? Enfin, chérie, tu sais comment je m'appelle. Mais non, mais dans le jeu.
Il y a un peu de ça.
Tu portes quoi sur toi?
Mais t'es con ou quoi? T'es con.
Donc, du coup, ce potentiel-là, comment on l'avait exploité?
On ne l'a pas exploité, ouais. Mais moi, j'avais déjà décidé de mon histoire d'amour avec Météor, donc voilà. Mais
tu parles en tant que MJ.
À rejouer,
putain, une histoire d'amour avec Chrysaor, quoi.
Alors, quand j'ai testé...
Je vais te sauver à Sydney.
Oui, il y a un petit côté Dallas, son univers impitoyable.
Il est quand même un peu inaccessible dans Sens Renaissance. Moi, c'est un peu la conclusion à laquelle je voulais arriver.
Mets-toi à la place des joueurs qui veulent avoir une histoire de cul qui commence.
Oui, mais alors je suis d'accord avec toi, mais
inaccessible.
Jérôme soulignait à juste titre qu'il y a quand même énormément de joueurs à l'heure actuelle de Sens qui sont des hommes. Et donc, du coup, je suis d'accord. Vous deux, vous parlez en tant que joueuse femme de Sens.
Bah, oui.
Je suis désolé, mais en tant qu'homme hétéro, il est quand même très attirant, Chrysaor.
Non, mais peut-être. Mais voilà. On est d'accord que...
Et puis son Mipho, c'est un peu de l'autre côté. Donc peut-être que lui aussi, on ne sait pas.
D'accord. Peut-être qu'il est avec... J'espère qu'à 500 ans, il a un peu tout testé. Sinon, ce serait triste.
Alors, pour l'instant, c'est pas encore que... Alors, on est dans ce podcast, pour l'instant, on ne savait pas encore qu'il avait 500 ans et qu'il était...
Mais on est dans un podcast de Sens.
Ah oui, d'accord. Sens Renaissance, Chrysaor Orion, vraiment, enfin, est-ce qu'il y a un Chrysaor Orion de Sens Renaissance?
Non, officiellement, dans la base, non.
Non.
Non. Oh, putain. Ah, c'est beau. C'est beau.
Height 5.
Donc, ouais.
Donc, dans le sens, non, mais après, plus on écoute, plus les gens qui écoutent les podcasts, plus ils se rendent compte qu'en fait, Sens, t'en fais ce que tu veux. C'est une base. Et rien qu'avec les podcasts, tout ce qu'on a dit, tu peux déjà faire plein de campagnes différentes de Sens.
Si c'est un MJ qui a déjà fait tourner pas mal de fois
c'est
Sens.
Exactement.
T'empêche de développer un peu plus Chrysaor au premier coup pour pouvoir développer d'autres choses après?
Même rajouter quelque chose, si tu as déjà fait une campagne de Sens, qu'est-ce qui t'empêche de faire une campagne de Sens Renaissance alternative qui se passerait intégralement autour de Sydney?
Oui, voilà, par exemple. Mais c'est ce que j'avais fait, puisque regarde, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai fait au final. Table de Rennes.
Sinon, tu t'ennuies à refaire les mêmes scénarios.
C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que j'étais à la table de Saint-Malo. C'est pour ça que j'avais exploré tout l'aspect Sydney, Chrysor et tout ça. C'est parce que après avoir bien exploré et puis à fond, hein, parce que Sens Renaissance c'était un scénar par semaine avec Fly et les
c'était
autres.
C'était pas un scénar.
C'était
de
pas
deux
six
heures,
épreuves quoi. C'était des scénars de 6 heures toutes les semaines. Donc on avait bien exploré la résistance avec des personnages qui n'apparaissent même plus dans les bases aujourd'hui quoi. Genre Mordine, c'est tout dont on a déjà parlé dans d'autres podcasts. Non mais c'est vachement
fils
important.
De la fée Morgane.
Donc du coup il fallait à tout prix qu'en tant que maître de jeu je retrouve de nouvelles sources de création, je sais pas comment dire, un nouveau bac à sable à creuser si
je veux
dire.
C'est pour ça Chrysor
Orion
avec sa boucle d'oreille. Hein. Nickel.
Non, il a pas de boucle d'oreille, il a un costard.
Ouais.
Avec sa boucle d'oreille.
Et un manteau Hugo Boss hein, à la SS.
Non, parce que dans la première version, Miphos, il avait une boucle d'oreille d'un côté et Chrysaor, il avait une boucle d'oreille de l'autre. Ouais. C'est ça.
Je le vois bien avec une belle chevalière.
Dans la toute première
une
version.
Grosse bagouze.
C'est intéressant.
L'Empire approved.
Bam et il signe ses trucs comme ça sur la cire, quoi.
Tu confonds avec Classis, là.
Donc, Chrysaor dans Sens Renaissance,
non.
Là, ce que j'ai envie de dire, c'est un peu une invitation de votre part à en faire. Faites agir directement.
En fait, il est très intéressant pour explorer tout le côté un petit peu politique, concret, ouais. Matériel de la résistance,
secret
qui est pas
aussi,
forcément.
Ouais.
Parce que Gladius, il a un côté très militaire.
Soren,
c'est un côté un petit peu.
Maternelle.
Oui, maternelle, puis métaphysique, tu vois, dans le dialogue. Ouais. Alors que les. Moi, je pense que Chrysor peut d'ores et déjà, et ça, je l'avais posé pendant ma campagne et ça avait très bien marché, donc quand j'étais MJ pageuse, c'est-à-dire que Chrysor peut interroger la notion de héros ou de bon côté. C'est-à-dire qu'avec tout son pragmatisme, il peut aussi dire méfiez-vous, parce que finalement, le héros, il est toujours du bon côté de la frontière.
Ouais.
Voilà, parce qu'avec sa notion de double jeu, c'est compliqué.
Et puis lui, il est tout à fait la personne qui peut. Au moment où il y a des gens à sauver et tout, dire non, eux, on les sauve pas, c'est pas possible, ça va nous griller. Ça peut poser des vrais problèmes en fait.
Il est
des
très
vraies
bien
questions,
pour ça,
genre
ouais.
Est-ce qu'être un héros, on va les sauver à tout prix, ou est-ce que être un héros, c'est sauver la résistance au prix de certaines vies. Il peut
c'est
poser des questions.
Pas
comme ça.
La vision que j'avais de Chrysor Orion. Pour moi justement, Chrysor Orion, c'est plus ça, c'est une vision très très pragmatique, très réelle politique, etc.
C'est un peu comme ça que je le vois.
Moi justement, Chrysor Orion, j'avais plutôt une vision
je
de
vois
lui,
plus gentil que ça.
Atreide dans Dune, c'est-à-dire la politique. En fait, on impose le respect et l'autorité par la gentillesse, par la bienveillance, par tu vois ce que je veux dire. C'est j'avais vraiment une vision très Atreide de Chrysor Orion.
Mais je trouve que ça lui va très bien. Je dis pas que c'est forcément ça. Position, mais c'est un personnage qui peut amener ce type de questions.
Tout à fait.
Voilà, la question de la double vie, du fait que, bah voilà, à Sydney, finalement, sous l'égide de l'Empire, on vit plutôt bien. Ça peut faire un point de comparaison.
Tout à fait.
Où les persos peuvent se dire, mais attendez, on est coincé dans une base au pôle sud, on se les pèle, on se fait chier. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas une cité comme ça?
Moi, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, alors moi je résume ça en disant qu'en fait, Chrysor Orion, dans Sens, mais là on entre peut-être déjà, on fait peut-être déjà un pont vers Sens Mort. Chrysor Orion, en fait, il symbolise la solution politique au conflit. En fait, à la guerre des immortels, il y a plusieurs réponses qui sont apportées par les différents protagonistes. La réponse Cetra, un peu, laissons, de toute façon, on va payer notre victoire. En gros, on va acheter la victoire. La victoire, on l'aura parce que on aura les moyens de financer cette victoire, etc. Ouais, on va devenir des héros. Voilà, une solution un peu matérielle, on va dire. Solipsisme représente une solution, comme tu l'as dit, métaphysique. Gladius et Finnfinger reprennent une solution militaire, c'est-à-dire et Néméo avant eux, on va dire l'extrême
scientifique.
Néméo scientifique, ouais, mais moi j'avais plutôt l'extrémisme en fait.
Oui, ah oui, c'est scientifique dur. Hein.
Voilà, c'est ça.
À coup de bombe nucléaire dans ta gueule.
Voilà,
hein.
C'est ça. Et Chrysor Orion, lui, en fait, il symbolise dans le sens la solution de la résistance au sens politique, c'est-à-dire la solution.
En fait, ce que j'aime bien, c'est que finalement, toutes ces figures-là, en tout cas dans Sens Renaissance, peuvent être comme les Jiminy Cricket sur les épaules des consciences. Il y a la conscience politique de Chrysaor qui est là, bah attention, faut pas se griller. En même temps, on a des responsabilités. Ça demande de mettre en place des structures civiles, des administrations.
Fait.
C'est la voix du peuple. Hein. Du coup, c'est vrai que ça amène tout doucement Sens Mort, mais je suis pas contre ce pont petit à petit.
À bien y réfléchir, en fait, je me souviens maintenant que dans Sens Renaissance, si j'avais mis un tel vous a donné cours de ça et un tel vous a donné cours de ça, etc. C'était justement pour que ces personnages incarnent des solutions, des voix.
Et maintenant que j'y pense, ça peut être une voie de secours, parce que si des joueurs développent une méfiance vis-à-vis des moyens militaires de la résistance, Chrysaor peut leur permettre de rebondir en trouvant des moyens politiques qui du coup pourraient les réconcilier. Si les joueurs commencent à développer une défiance, à se dire mais attendez, on est des bourrins, on est des... J'aime pas les moyens de la résistance. Chrysaor dit bah très bien, vous voulez pas être des militaires, on peut mettre en place des tribunaux civils, des institutions légales. Ce qui peut éviter d'avoir des joueurs qui, en plein milieu de la campagne de Renaissance, disent et si je passais à l'ennemi pour voir.
Favi, tu voulais intervenir? Non, d'accord, ok. Ben disons, j'ai l'impression que, ben, je sais pas, tu lèves le mi, tu fais des gestes en fait. J'ai l'impression.
C'est de l'approbation.
Ok, très bien.
Alors les tons, je les donnerai.
Eh bien. On peut passer au Chrysaor peut-être de.
Moi je me disais aussi,
dans
Sens Renaissance, je pense qu'à la lumière de Cosmo, ce sera beaucoup plus facile de l'appliquer dans Renaissance.
Et ça, mais non, mais ça, j'ai
mais
envie
dans
de.
Tous les, dans tous les dans
mais
tous
oui,
les sens.
C'est ça, c'est-à-dire, ce que j'avais envie de vous dire ça en conclusion de cette partie sur Renaissance, c'est que tout ce que vous dites là, vous dites oui, grâce au podcast, grâce. Mais c'est aussi grâce à vos lectures de la suite.
Dans l'état actuel,
vous savez
de
maintenant,
nos connaissances.
Voilà, vous savez maintenant, grâce avec Sens Mort, déjà, vous savez que le personnage, il a une fin. Et donc, du coup, vous n'allez pas trahir de futurs spoilers en lui faisant faire n'importe quoi dans Sens Renaissance. Vous savez comment ça va se finir. Donc, au final, ça vous permet d'acquérir de la liberté sur le personnage.
Faites-le s'amuser, je veux dire.
Je lui ai fait manger des sushis.
Il a pu énormément de livres à tenir,
oh,
là,
Dieu.
Après.
Pauvre personnage.
C'est trop bon, les sushis.
Oui, tout à fait.
Ouais. Il a dû s'il a eu le droit.
Il va lui arriver. Il a beaucoup de sushis à
se Après, c'est lui.
Oh
oh,
grillé.
Non, et après c'est lui qui passe à la casserole.
Ah oui.
Il est alors, découpé en tranches.
Donc dans Sens Mort. Ah, putain, mais c'est pas possible, on peut
couper, on
l'a
refait.
Hein. On pourra pas les tenir ce soir. Ken le survivant.
Un vendredi
Ken
soir,
le survivant maintenant.
J'ai plus de cerveau.
Vraiment
vendredi
quoi,
soir.
Ken le survivant
j'ai
version française.
Plus de cerveau le vendredi soir.
Okay.
Cerveau.
Donc,
spoiler, un vendredi de veille de vacances.
De Sens Mort. Oh la vache.
Et sans alcool.
Tu sais pas ce que c'est, toi, les vacances. Rome, tu travailles toute l'année.
Non, je sais pas ce que c'est. Le Chrysaor de Sens Mort, je vais y arriver.
En plus, ça rime.
Alors lui, il est intéressant parce qu'il intervient dès le départ. Contrairement à Sens Renaissance, on sent tout de suite dans Sens Mort qu'il va être un des personnages
principaux. Ah bah c'est lui qui fait le briefing.
Ouais, il nous fait un cours avec un PowerPoint, le mec, quoi.
D'ailleurs, j'avais vraiment fait un PowerPoint pour mes joueurs, c'est-à-dire que Chrysaor leur a fait la description de la
syndrome,
ligne avec
c'est
des
slides. C'est le syndrome classique de Sens Néant. Alors, bonjour, pendant une heure, je vais d'abord vous faire un cours de géographie. Alors... Il y a le pilier d'Héraclès. Oh putain, ça va être long.
Agonis,
il y a quoi à la cantine?
Je vois trop Agonis. On est obligé de se tartiner toutes ces conneries.
Donc
non, Agonis, ce serait plutôt...
Il est où le radiateur?
Ah, je suis désolé, je pense aux auditeurs qui écoutent les podcasts sur Sens qui n'ont jamais lu les livres et là, ils doivent faire rien à comprendre. Ah. J'essaye. Oui, il y en a plein, en fait.
Okay,
ah bah, je vous
bonjour
félicite.
À tous.
Je vous remercie,
donc,
je vous félicite.
Et voilà, qui écoutent ces podcasts uniquement parfois pour l'ambiance, soit pour savoir justement ce que contiennent ces fameux livres dont on parle sur la série. Donc,
que des
alors,
conneries.
Rapidement. Donc, Chrysaor, au départ, c'est le personnage qui vient pour le briefing des bugs leur expliquer comment
quand
fonctionne la Lune.
Sur la Lune.
Quand ils arrivent sur la
ouais,
Lune.
Pendant
voilà.
qu'ils sont en transit entre la Terre et la Lune, très exactement.
Voilà. Et il leur explique que la Lune est divisée en 13 fragments qui sont à l'image de leurs habitants et des activités économiques.
13.
Et je crois
8.
Que. Oui, non, il y en a 8, oui, pardon, excuse-moi. Des 8 fragments, excuse-moi, merci.
Non, mais c'est important de se rappeler qu'il a écrit les livres.
Ah, mais c'est bon! Sérieux,
quoi. Alors, vous voyez le petit prince. Attends, on va refaire le podcast du coup sur les fragments d'abord.
Chrysaor couché.
Oh my god.
Deux heures plus tard.
Oh my god.
Donc ça, c'est le
d'amour
premier fragment.
Fait le...
Ça, c'est le deuxième fragment.
Non, mais l'idée de ce podcast à ma place, vous laissez-moi me planter, mais.
L'idée de quoi?
Donc...
L'idée, later. Oui. Leader,
oh
comme lady.
C'est trop compliqué. Alors donc, je vous ai...
entre
Flavie et Morgane, ce podcast est ingérable.
Oh Jean et Maxime, tu l'oublies?
Oui, et Maxime.
Ah bah merci, oui.
Très bon élève.
Très bon élève, tout à fait.
Merci.
Donc, c'est lui qui briefe les joueurs, qui va leur expliquer l'univers. Et donc, c'est ce que disait un petit peu Maxime tout à l'heure, c'est qu'il y a ce petit côté, un petit peu comme Classine dans Sens Néant, il présente en fait le décor.
Mais on pourquoi sent aussi tu nous fais pas un jeu de rôle, Chrysaor? Ta gueule. Il n'y a pas marqué balayeur sur mon front.
Oh putain, c'est dur.
Je sais plus ce que je voulais dire.
Elle a gagné, c'est bon, je pense.
Je sais plus ce que je voulais dire.
Fly, un point pour Fly.
Non, mais c'est pas possible, quoi. C'est plus possible.
Il expose aussi les. À ce moment-là, il expose aussi pas mal les idéaux, c'est-à-dire ses idéaux voilà. pour la Lune.
En fait, merci. On apprend pendant ce briefing que Chrysaor, en fait, est le leader de la résistance sélénite qu'on appelle le clair de lune. Voilà. Et donc, il va présenter la lune, la mission des Bucks, qui est de libérer Séléné de l'affluence de l'Empire. Et puis, Chrysaor ne le sait
justement,
pas.
Justement, tu vois, la libérer métaphysiquement, la libérer...
Non, la libérer politiquement.
Je me rappelle d'ailleurs,
c'est là
dans la base...
Il leur dit que quand on mange du bœuf, c'est pas vraiment du bœuf.
Ouais, ouais,
oui.
Il leur dit...
Ah oui, oui, il leur révèle plein de
Il leur dit tout
trucs,
de suite, ne mangez, ne commandez pas de viande
de
à Séléné.
De viande Séléné. Sur
Séléné. Des sushis.
C'est pas de la viande.
Si, c'est de la viande, mais c'est pas des sushis.
Donc voilà, ça c'est intéressant.
Et
parce
en
que...
plus, dans cette introduction, il y a une discussion entre... Ou alors c'est dans...
C'est
non, c'est dans Renaissance, autant pour moi, mais on peut la recaser là, entre Solipsis et Chrysaor, où Chrysaor dit « Mais laissez tomber, Soren, votre combat métaphysique, il est gagné. Maintenant, c'est la politique qui nous intéresse. Il nous faut des vaisseaux, il nous faut des infrastructures, et on va lui casser la gueule. »
Chrysaor, ils disent que tous les Bucks disent... Enfin, n'importe quel joueur, je suis désolé, hein, mais attends, moi j'ai peut-être présenté trop le jeu, mais dès Renaissance, dès le premier scénar, moi tous mes joueurs m'ont toujours dit mais attends, c'est bon, on a gagné. De manière évidente, dès qu'il y a un bug, par effet ricochet, c'est bon, l'ombre monde et la réalité, ça n'a plus rien à voir. Pourquoi est-ce que vous faites des cachotteries en mode « Oh, on va se cacher de Miphos, vous êtes cons ou quoi ?» Ça n'a plus rien à voir, c'est évident. Il suffit d'avoir fait des maths jusqu'en cinquième pour s'en rendre compte.
Alors, est-ce que tu connais comment aurait dû finir le Seigneur des Anneaux ?
Les aigles ?
Ouais.
Eagles.
Hey, pourquoi on prendrait pas un vaisseau et qu'on irait pas directement débrancher les ordinateurs
cela
et dire
dit,
qu'on aurait pu passer par la
et
par
c'est
la
là
lune
que
avant.
Chrysaor intervient et que dit oui bon certes votre histoire d'ombremonde auquel il a pas l'air de croire plus que ça hein, en tout cas c'est ce qu'il dit.
Ah lui il a mis la physique de sens il y croit pas.
Oui c'est ça il dit votre histoire d'ombremonde ça va bien deux minutes. Moi ce que je constate c'est qu'il y a des gens qui sont pragmatiquement opprimés que sur Séléné les gens sont en train d'agoniser à petit feu c'est le cas de le dire.
Ouais. Une noblesse décadente qui domine tout ça.
Voilà et que lui, son rêve, c'était la démocratie. Il a toujours œuvré pour ça. Et il se rend bien compte qu'avec la tyrannie de Miphos, on est très loin de l'idéal démocratique que l'empereur Bran Oberon avait essayé de mettre en place.
C'est un chancelier élu, mais bon, bah, il est mortel.
Ouais.
Et il est réélu tous
mais
les 5 ans.
Mais ça, oui, c'est ça. C'est, il est réélu à vie.
Bizarre.
C'est vachement démocratique. Ça va, Maxime?
Oui, ça va, parce que maintenant, en fait, j'ai mes deux mains libres grâce à un magnifique porte-micro offert par les dons à la cellule.
Plus ça va, plus on se croirait à Radio France ici.
Exactement.
C'est cool, non ?
Ah,
c'est pas mal.
Ça me donne envie de saisir, tel un chanteur de...
C'est pas les dons de la CU qui ont permis d'acheter ce...
Je me doute.
C'est mon père qui me l'a offert pour mon anniversaire.
Merci, monsieur Briand.
Très heureux d'avoir ce magnifique portrait.
Je ne ferai pas de jeu de mots.
Effectivement. On parlait de quoi ?
Non, ce qui est intéressant du coup à ce moment-là, c'est que... Oui, j'arrive moi à rebondir du coup. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que...
Elle a écrit les livres.
Non.
Si.
Si,
dans Sens Mort, tu as contribué.
Dans Sens Mort, j'ai écrit les fragments.
Et oui, donc c'est toi qui aurais dû retenir le nombre de fragments. Non, je fais ça, parce que le nombre, c'était moi qui l'avais imposé.
Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, Chrysaor permet à des joueurs qui étaient jusque-là des gros bourrins d'essayer de se positionner autrement. Et Dieu sait que dans Sens Mort...
Et l'inverse est également vrai, d'ailleurs.
Les premiers coups, c'est quand même vraiment les boules, quoi. T'arrives avec tes gros sabots, comme t'as
avec
toujours fait.
Avec ta grosse répliohite, quoi.
Et tu te ramasses des...
Et ça, c'est intéressant, parce que... Il arrive, au moment où il arrive, les rapports de force sont inversés. C'est-à-dire que les intellos vont commencer à prendre un peu de pouvoir, alors que les gros bourrins vont être relégués.
Et moi, je sais que, par exemple, pour mon perso, Lina de Cali, qui n'était pas... qui a jamais été une grosse bourrine, tu vois.
Ouais, elle n'a pas une rune de mort.
Non. Moi, je soignais. C'était un peu... là. Bon, allez combattre ce truc-là.
Sauf que soigner des répliohites, tu fais « Eh, ça ne sert à rien, papa. »
Et du coup, c'est le moment où mon perso, il a commencé à devenir intéressant, en fait.
Bah oui.
Et avant d'avoir des histoires de cul.
Ça démarre à ce moment-là, moi, dans Sens Mort, mais
c'est
histoire
non,
de
c'est
cul.
Dommage
et puis,
pour la cause,
dans Sens Mort, va quand même y avoir la disparition d'un leader fondamental de la résistance, puisque à un moment donné, Soren Solipsis va quand même être déclarée absente.
Disparue. Ouais,
voilà, elle va manquer à l'appel. Et à partir de ce moment-là, Finlonfinger, qui qui était parti hein, pour devenir le leader, vu qu'il avait repris son poste de général et tout ça, va sombrer dans une dépression à moitié alcoolique, ce qui fait qu'on peut le jouer comme pas incompétent, mais franchement la tête ailleurs. Et donc finalement, c'est Crisaor qui peut pallier à tout ça, d'autant qu'il connaît très très bien les rouages de Sélénée. Qu'est-ce qu'ils font là?
Non, mais il met en doute mes capacités d'ingénieur et j'avais compris.
Tu lui fais du pied?
Non. On discute de ce magnifique pied de micro. Voilà, on fait un TV achat. Donc voilà. C'est juste qu'ici, il faut un coup de tournevis pour l'insérer.
Et donc, du coup, c'est Crisaor qui peut prendre les bugs par la main et les emmener dans tous ses lénés. Et visiblement, il connaît très très bien Lester et Uriel. Ouais, qui sont les hôtes de la résistance.
Voilà, du clair de lune.
Et du coup, en fait, dans le manoir de Lester et Uriel, ça peut devenir un vrai QG, ouais. Où en fait, Crisaor peut mener la danse plutôt que Soren Solipsis, qui au bout d'un moment n'est plus là, et Finn Lonefinger, qui a des rapports un peu conflictuels avec sa planète, quoi.
Ouais.
C'est joliment dit,
ouais. Tout à fait. Effectivement.
Et c'est là que les histoires de cul commencent.
C'est le poste de leader en fait de Crisaor Orion qui arrive. Parce que étant donné que le leader naturel de la résistance s'éclipse, il reste le.
De lune.
C'est quoi ce personnage?
S'éclipse de lune.
De lune.
S'éclipse, c'est qui Eclipse?
Oh, putain. Putain, je peux pas en placer une, sérieux? Putain, mais c'est pas vrai! Bon, je suis.
Eh, t'es sûr que c'est pas un nom qui aurait pu apparaître dans Sens, Clips?
Okay. Eclipse Cadria.
La suite de ce podcast, mesdames.
Oh non. Tu peux pas le mettre en DLC?
Si, je pense que ce sera un bonus. C'est d'ores et déjà un podcast du chaos.
Eh, je suis là! Impossible. Je suis dans tous les podcasts du chaos!
En même temps, tu fais tout ce qu'il faut pour. Hein,
On fait pas grand chose, je pense qu'on.
Alors... C'est plutôt un quadrilla de chaos en fait.
Alors, où voulez-vous en venir? Je sais pas ce que vous voulez dire. Je sais plus le plan. Moi.
Bah
j'ai,
si,
j'ai
moi je peux. Je vous ferai une transition.
Pendant
qu'il parle avec Lester et Uriel, on apprend aussi que Crisaor Orion aurait été victime d'une mystérieuse tentative d'assassinat de la part du chancelier de la Résistance.
Oh, je la victime. Oui, il aurait été tenté d'être.
Tu as écrit ses livres, Romaric, je te le rappelle.
On le savait pas avant.
D'accord, ok.
C'est à ce moment-là qu'on l'apprend.
En fait, Crisaor dit ouais, voilà, mais il faut s'il essayait de me buter. Il a buté les parents d'Anthony, il a buté les.
Il a
la
buté
famille de Lester et Uriel.
Et voilà, c'est un salaud, il est méchant.
Putain.
Ça, c'est la famille de Lester et Uriel. Ça, c'est mon chien.
Putain.
Bref, il a tué tout le monde et c'est un méchant.
Ouais.
Et Crisaor, en fait, il renforce le côté haine demi-fausse. Ce qui est pas vraiment le cas. Avant, il y a Solipsis qui est là en mode métaphysicienne, en mode non, mais il est méchant,
mon ami.
Mais il est quand même dans le du bon fond. Faut que vous lui montriez la vérité.
C'est pas ça, En fait, Solipsis, elle leur explique qu'il est devenu fou du point de vue mental. Elle leur dit voilà, il était hyper brillant et il est devenu complètement barge et il est dangereux parce qu'il est prodigieusement intelligent. Et Crisaor en rajoute une couche. Il fait ah oui, alors là, il est prodigieusement intelligent. Et en plus, il tue des gens sans vergogne. Voilà, ouais, dans des tentatives d'assassinat.
Ça cale un
et
petit peu les bugs qui ont comme fait j'ai envie de rencontrer Miphos. T'as envie de dire, les gars, sérieusement.
C'est possible,
masse,
ça va se terminer par une belle explosion.
Pour tuer, pour faire des coups de pute, pour faire des trucs absolument affreux.
Il est plus seulement prodigieusement intelligent, c'est plus seulement un scientifique fou.
C'est un tyran.
Voilà, ça devient aussi un dictateur sans vergogne, un assassin.
C'est marrant que les gens en doutent en fait. Parce que c'est expliqué dès le background.
Ouais, mais dans le background, certes, mais dans la façon qu'on a de présenter Miphos, au début, ça fait quand même genre. On est tellement tous habitués au cliché des super méchants que maintenant on se dit ouais, mais non, ça peut pas juste être un super méchant, un mec aussi intelligent. Il a forcément
un
secret.
Non, oui,
peut-être
qu'il
fait ça pour une plus grande cause, tu vois. Peut-être
c'est vrai.
Mais bon, il brise quand même beaucoup de.
Mais tu sais, les gens sont blasés de nos jours.
Ouais, j'ai l'impression.
Et puis, tuer une minorité pour sauver la majorité.
Et
ça
pour
va,
le
quoi.
Coup, comme les joueurs vont devoir, enfin, comme les bugs vont devoir se positionner pour s'éléner en disant, bah voilà, telle action à faire est morale. Enfin, est-ce que finalement on bute tous les gens du roi pour instaurer un. Est-ce qu'on fait un putsch en fait? Est-ce qu'on fait un coup d'État? On met la résistance à la place? Est-ce qu'on laisse les gens du buveur bouffer de la viande humaine ou pas?
Ouais.
Et du coup, toutes ces questions de politique morale, c'est Crisaor qui peut rebondir là-dessus. Et du coup, via Crisaor, ils peuvent interroger l'impuissance des nobles, enfin de la politique
sélénite.
Ouais,
parce que Crisaor, il dit, bah voilà, on a monté une noble chambre, la démocratie c'est important et tout ça. Et les joueurs peuvent lui rentrer dans l'art en lui disant, mais attendez Crisaor, vous êtes bien mignon, mais ça fait rien.
Et puis surtout, ouais, dès le milieu de mort,
qu'est-ce que vous voulez faire tout seul ?
Quand les bugs changent les choses, ils peuvent commencer à dire hey, « Eh les gars, votre clair de lune, vous êtes mignons, mais ça fait combien de centaines d'années que vous bossez ? Nous, on est arrivés, en un an, on a déjà changé plus de choses que vous en 15 ans. »
Oh putain.
En général...
C'est tellement salaud de dire ça à ce personnage.
Ouais, mais parce qu'ils se rendent pas compte quand les gens disent « Ouais, non. Mais nous, on a mis tout ça
Attention,
en place. »
Attention, Maxime, à ton micro.
Ouais, je vais arrêter. Ouais,
il faut que t'arrêtes avec ton pied, là, parce qu'il est pas calibré pour ça, en fait. T'aurais dû me dire si t'avais voulu...
Non, mais c'est juste que je joue.
Si t'avais voulu prendre ton pied, en fait, j'aurais pu augmenter le gain et tout ça, mais...
Arrête de tripoter ton pied, s'il te plaît.
C'est comme ça.
Il est pas calibré pour ça.
C'est dur.
Oui. On va l'appeler le podcast aux hormones.
Oh, c'est quoi, c'est
ah,
c'est,
tu sors, tu parles de crise, il y a tout le monde qui se sent plus, il y a les vêtements qui tombent.
C'est ça quoi. Moi j'avais
podcast, on aurait dû l'enregistrer le premier samedi du mois celui-là en fait.
je comptais l'aborder de façon super sérieuse podcast. Moi, je pensais que j'avais tant de choses à dire. Ce personnage en fait je trouve qu'il mériterait un beau podcast.
Oh, bah merde. Oh, il est exceptionnel celui-là.
C'est vrai. Il est adorable, je trouve que c'est un personnage bon,
arrête
plus,
de
trouve...
caresser les poils.
Crisaor.
Oh là là, mon Dieu. Donc, on était où Crisaor
de sens mort.
Crisaor de sens mort, oui. Donc, l'impuissance
jusqu'à
politique.
Jusqu'à la rencontre avec Missouf,
Le Missouf, c'est la soupe.
L'impuissance
la soupe
politique. Ça, c'est intéressant, par exemple, avec ce personnage, parce que c'est celui qui nous présente
une solution
politique. Il n'y a que
politiquement qu'il est impuissant.
Mais, putain, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Hein.
J'arrête.
Et donc, l'impuissance politique du personnage est quand même vachement intéressante parce qu'il nous propose une solution à laquelle lui-même ne croit pas, en tout cas pas à la noble chambre en état. Puisque
si, il pense qu'en la changeant, en la rénovant, en éliminant quelques-uns s'il faut, mais gentiment, les éliminer.
Cela dit, Crisaor a le même défaut que les gens qui disent le système est bon, mais il faudrait changer les gens. C'est qu'en fait, il a des grands idéaux, mais il ne propose jamais de solutions concrètes. Il attend des bugs qu'il les
trouve. C'est un socialiste, en fait.
Ouais, il attend.
C'est tellement bon ça.
Il attend des bugs qu'il trouve ses solutions. Et ça aussi, ça peut faire un point de discussion qui est passionnant. Genre ouais, vous voulez changer les choses. Genre le système est bon, mais faudrait le changer. Et là aussi, Crisaor, il peut être mis en défaut sur ce point.
Mmh. Ouais, c'est le mec qui croit dans le fond, dans le fait que chaque humain veut le bonheur en fait. Ouais. C'est l'idéaliste.
Et c'est quelqu'un qui croit aussi en la force collective.
Ouais, c'est un idéaliste, c'est un mec qui y croit, et ça crée des discussions. Il est là pour créer de la discussion aussi avec les joueurs. Bonne ou mauvaise, il y a des joueurs qui peuvent dire ouais c'est vrai, allez Crisaor, on y croit, on y va jusqu'au bout. Et il y a les autres, il y a les gens qui vont dire non mais certes, mais à partir du moment où il y aura une personne qui pense que son profit personnel est plus important que la collectivité, qu'est-ce que tu fais ? T'en fais quoi de cette personne, Crisaor ? Tu la tues ou tu l'intègres à ton système ? Et si elle te dit non, la volonté de chacun, tu peux pas la contrôler. Mmh. Et là, tu le mets en défaut. Au bout d'un moment, il faut dire, cette personne-là, qu'est-ce que t'en fais dans ton système ? Et Crisaor pourra dire, non, je pense qu'un bon système, il encouragera les gens bien et tout. Mais
Hobbes contre Rousseau, notre table, ça a fini comme ça. C'est en gros, il y avait les adeptes du « L'homme est un loup pour l'homme » et « Tiens, on va faire un contrat social !»
Ouais, c'est ça.
Ça finit souvent comme ça.
Du point de vue politique.
Ça finit souvent comme ça. Sur ma table, c'est pareil. Hein. Il y en avait qui étaient complètement blasés, qui disaient allez, vas-y, on les bute tous, on les laisse tous crever dans leur merde, là, on se casse. Et ceux qui disent non, mais on y croit, c'est que des victimes, il faut les aider, on est là pour ça. Si on n'est pas capable d'aider ces gens, même si on va sur Mars et qu'on bute Miphos,
ouais,
on n'aura pas gagné le.
On n'aura jamais gagné.
On n'aura pas gagné le combat politique.
Voilà.
Oui, non, mais on ne sera pas les héros qu'on nous avait dit qu'on serait. Parce qu'un héros, ce n'est pas juste celui qui va se battre contre le méchant dans sa salle, le boss de fin. C'est aussi celui qui prend le temps d'aider tout le monde autour.
Oui, puis au-delà de ça, même si tu arrêtes les ordinateurs, tu ne changes pas ce qui se passe sur la Lune au final. Donc si tu changes pas ce qui se passe sur la Lune, t'as éteint les ordinateurs, c'est cool, mais il se passe toujours la même merde.
Ça après, c'est toute la question de Sélénée, c'est la question des mentalités. Outre la question « la fin justifie-t-elle les moyens ?», la question étant de savoir à quel point est-ce que le système influe sur les mentalités. Parce que ça se trouve, il te dira « oui, mais c'est Sélénée qui a perverti les gens » et trucs comme ça. Et là, il faut faire rentrer Finlandfinger en jeu. qui dira mais non, mais les Sélénites, c'est juste des, ils sont juste cons. Enfin, ils sont cons, ils sont éteints, ils sont mauvais. Krizor dira si on change le système, on sauvera les gens.
Et
Finlandfinger dit non, c'est les gens le problème. Mmh. Le système est merdique, soit, mais c'est les gens le problème.
Il y en a aussi qui vont te répondre ouais, mais tu changes le système, mais bon, d'ici à ce qu'il soit efficace, il faudra 2-3 générations. Et le problème, c'est que les générations pourries, là, le fruit pourri qu'on a actuel, il va influencer les générations. Il va continuer à pourrir les autres générations.
Non, donc, est-ce que vous parlez toujours de sens ou vous parlez de la réalité là, je sais plus.
C'est exact. Voilà, je vais dire, c'est le même débat qu'on a sur l'Assemblée.
C'est ça, en fait, au final, c'est Krizaor, c'est la politique. Ça te permet d'avoir des discussions politiques avec tes amis. Si t'es pas capable d'en avoir, bah, tu peux en avoir dans le sens.
Alors, en fait, le truc, c'est que chaque déterminisme est représenté dans le sens. C'est-à-dire, il y a les déterminismes psychologiques. À travers des personnages comme les fragiles, par exemple, qui vont pouvoir explorer de la dimension de l'identité personnelle, etc. Mais pas uniquement. Il y a dimension psychologique aussi, même dans le background de sens, à travers qui on est, quelles actions on va faire, la volonté, toute cette dimension, etc. Il y a aussi le déterminisme métaphysique, au sens où le cadran, le miroir détermine la destinée de l'être humain, parce qu'il y a ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Il y a ce déterminisme logique qui apparaît. Et il y a le dernier des déterminismes qui apparaît, on va dire, le plus... social, le déterminisme social et politique qui apparaît dans Sens Mort. Et en fait, ce personnage de Krizaor, et là on arrive au cœur, à mon avis, de ce qui fait le personnage de Krizaor Orion, incarne en fait la lutte contre le déterminisme social et politique.
Et ce que je trouve très intéressant, c'est que un des arguments fondamentaux qu'on peut opposer à Krizaor, c'est de dire tu parles de déterminisme social, mais mec, t'es un noble. Comment est-ce que tu peux parler au nom des peuples opprimés, toi qui as toujours vécu dans un bureau lambrissé, avec vue sur tout Sydney, tu claques des doigts, t'as tout ce que tu veux. Comment tu es légitime à parler d'oppression ?
Et là, je te trouve bien sympathique, parce que ce qu'on va apprendre à la fin de Sens Mort, ça enfonce encore plus, je trouve, le personnage de Krizaor Orion. Alors, à savoir que pendant tout Sens Mort, on nous parle d'un certain Krizaor Kadria,
qui serait
le frère de Miphos Kadria.
Qui aurait inspiré le nom de Krizaor Orion.
Qui aurait inspiré le nom de Krizaor Orion.
C'était le fondateur du Clair de Lune.
Voilà.
Et du coup, Krizaor Orion.
Que les parents de Krizaor Orion admiraient. Et donc, ils l'auraient baptisé Krizaor pour ça.
En référence à ce fondateur.
À ce fondateur. Voilà, c'est ça, exactement.
Et là, la révélation, tintintin.
Tintintin. Fin de. C'est l'avant-dernière épreuve de Sens Mort, je crois. Ouais. Où on apprend.
Qu'en fait.
L'avant-avant-dernière, c'est
ouais.
Ça
ouais. Le réverbère, puis ensuite il y a le géographe, et enfin il y a l'aiguille.
Et
on apprend qu'en fait il est le frère de Miphos Kadria. Et donc voilà. Il est lui aussi, comme son frère, fait d'un métal qui s'appelle la métallite, qui a été créé par Stentor Kadria, dont là aussi on en a entendu parler avant.
Qui est en fait son père.
Qui est en fait le véritable père de Miphos et de Krizaor.
Et donc Krizaor est effectivement Krizaor un immortel.
C'est un immortel, c'est
voilà,
un noble.
Ce n'est pas une incarnation de Rune, mais il est immortel.
Mais il est immortel.
Il a été le jouet des expériences de son père. Comme
là, ça fait mindfuck, genre quoi, il y a des immortels non...
Bah, Ebran Oberon.
Oui, mais ça, ils se doutaient, mais ils n'étaient pas sûrs, parce qu'ils n'avaient pas tout à... Enfin, ils étaient...
Parce que Ebran
Oberon, c'était une machine, là, c'était un humain normal, pas connecté à des...
dans la tête d'Agonis. Il y a des immortels qui ne sont pas des immortels. Il y a des immortels en métallite. Il y a des immortels... Hein ?
Pourquoi dans la tête d'Agonis ? Dans la tête de tous les joueurs, je crois.
Et en plus, on apprend...
Le problème, c'est que c'est les mots qui posent problème.
Et en plus, on apprend ça dans un moment absolument tragique, puisqu'on découvre ce fait de la bouche de Miphos Kadria.
C'est pas la fête.
Non.
Et ce qui est intéressant, c'est que...
Au moment où il...
Où il le tue.
Assassine son propre frère, hein, ouais. Pour... voilà.
Ah, c'est tellement... Alors là, vraiment, si on n'a pas vu, lu, entendu, joué à Sens Cosmo, on ne peut pas comprendre cette scène. C'est une scène qui est clé, mais alors un truc de fou. Donc je vais vous en parler un petit peu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Oh, attention, exclusivité !
Pourquoi est-ce que Miphos peut se permettre de tuer son frère comme ça ? C'est parce que...
Et donc il peut le recréer, j'allais dire le ressusciter. Mais
C'est ça, et donc du coup il n'est pas un sacrifice prêt. Il y a un élément très intéressant à ce moment-là que dit Miphos, je ne sais pas si vous avez retenu ça aussi, c'est que Miphos lui dit, au
à
moment
sens,
où il
mon
dit,
frère.
Tu as...
Il dit ça, mais...
Oui, c'est... Enfin bon, les retrouvailles sont pour plus tard en fait. Si tu... pense avoir été victime d'un attentat, si vous pensez tous avoir été victime d'un attentat alors qu'il s'agissait de simples accidents, vous l'avez inventé. Il n'y a que dans votre tête que je suis un tyran. Ça, je trouve que c'est quand même vachement important.
Effectivement, Chrysaor, avant de mourir, lui envoie la balle. Et l'attentat dans lequel j'ai failli périr, tu l'as oublié, etc. Et Miphos lui dit, mais je n'ai jamais commandité d'attentat. Il ne va pas plus loin. Hein. Il dit, voilà.
Il n'y a que dans ta tête.
Et en fait, il le tue pour épargner, pour s'épargner la révélation de la métallite. C'est-à-dire qu'il a trop peur que les bugs apprennent le point faible de Miphos. Et donc, il tue Chrysaor, qui possède le même point faible que lui.
C'est ça. Absolument. Absolument. Et là, la boucle est bouclée, si j'ose dire, on comprend tout le personnage de Chrysaor Orion. Pourquoi est-ce qu'il est nostalgique du temps où les hommes se mettaient ensemble pour créer Séléné ? Parce qu'au départ, en fait, quand il présente Séléné, on sent qu'il y a une certaine forme de nostalgie chez lui. Il parle de la victoire de la collectivité à la création cette planète.
Le début, potentiel de l'humanité quand elle travaille ensemble.
Voilà, c'est ça.
Il y a Finlongfinger, il y a quelqu'un qui lui dit « Vous en parlez comme si vous l'aviez vécu à ce moment-là, déjà dans la base ».
Oui, mais c'est Gabriel, c'est un personnage. Donc
mais
les joueurs,
oui, mais ça reste un clin d'œil pour le lecteur. C'est un clin d'œil pour le lecteur de la base de se dire... Tiens, c'est...
Et puis, Finlongfinger aussi lui dit... il me semble qu'il reprend un joueur à un moment donné en lui disant « Non, mais sans lui, vous ne seriez même pas là pour parler. » Enfin, puisque du coup, on apprend que ce type a 500 ans et que ça fait en fait 500 ans qu'il est leader du Clair de Lune.
Alors,
enfin,
je ne me souviens plus. Est-ce que c'est lui qui a fait fuiter la liste des enfants ou pas?
Non, je crois pas.
D'accord.
Non, je crois pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il organisait avec le Clair de Lune des bombardements de caisses de vivres sur la résistance, par exemple, de la Nouvelle-York. Enfin bref, depuis le début, il joue ce rôle d'agent double. Depuis le début, c'est l'ange gardien de la résistance. Mais vraiment, quoi. Il est là à tous les niveaux. C'est un immortel de la résistance très important, au même titre que Solipsis, finalement.
Finalement, quand il meurt, alors là, dans la base, c'est ton personnage. Je crois qu'il s'adresse à Lina directement. Il transmet en fait la charge de réaliser son rêve, c'est-à-dire la fin de la tyrannie, l'instauration d'une vraie démocratie. Donc en fait, toute la charge politique dont il est le porteur à un des bugs.
Ouais. Bon, ça c'est très intéressant. Et dans Cosmo, en fait, ce qu'on apprendra rapidement sur Chrysaor, c'est plus des choses par rapport à son enfance, à ses liens avec Miphos Cadrien.
Et après Chrysaor, ils se liquéfient.
Tel un toon dans la térébenthine.
C'est trop, parce qu'en plus, il n'y a même pas moyen. C'est même plus possible de lui offrir une sépulture décente ou de choses comme ça. Quoi.
Il explose en plus que le lieu dans lequel. Oui.
Les
laboratoires inversés.
Moi, j'ai des gens qui ont quand même eu le temps de récupérer un petit peu un morceau de son corps. Quoi.
Dans une bouteille.
Pour l'enterrer, même pas pour l'étudier.
Une urne, en fait. Enfin, on a une bouteille sous la main.
Ça, c'est son gros orteil.
Enfin, c'est terrible. C'est terrible comme fin. Il a vraiment une mort horrible. Il a vraiment une mort affreuse.
C'est terrible, quoi. Ouais. Alors, du coup.
Juste pour parler un peu de
ça. Tu sais, ça me donne une idée vachement bien pour mon prochain podcast. Les pires morts de sens.
Il y en a des pires morts de sens.
Et des Darwin Awards.
Il y a des Darwin Awards en sens. Il faudrait beaucoup de monde pour ce podcast-là.
Finlongfinger qui a glissé sur son épée. Ouais.
Votre mort préférée.
Ce serait beau. Il y a quelques morts de PJ, notamment, dont j'ai le souvenir, qui sont magnifiques. Bref, donc on parlait de quoi déjà ? Je voulais juste parler un peu de son enfance. Et ce qui est amusant, c'est la symétrie entre les deux personnages. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui fait la fête à Doxystérone en tant qu'étudiant, à savoir Chrysaor, l'autre, il est dans les bouquins en train d'étudier, très austère, très sévère.
On apprend que Chrysaor a fait une thèse en.
Sur l'utopie.
Oui,
mais
c'est ça.
Attention, c'est Chrysaor Cadria, c'est le deuxième.
Oui, oui.
En fait, Chrysaor a eu plusieurs identités dans sa vie de sélénite. Et Chrysaor Orion.
Oui.
Et l'écrivain d'une thèse qui s'appelle la thèse sur l'utopie, que Miphos a lu.
Et d'ailleurs, il a assisté à sa soutenance. Oui, ça, c'est le directeur de Doxystérone qui l'apprend au bug sur Séléné.
A priori, il l'a reconnu.
Mais il sait depuis le début. En fait, depuis le début, il le sait. Miphos sait très bien qui est. Enfin, en fait, c'est ça qui est intéressant avec Miphos.
Et est-ce que Chrysaor sait que Miphos sait?
Non.
Non.
Ah.
Non. Parce que ça, c'est sûr que non.
Chrysaor, ça a toujours été le mec qui se tape plein de nanas et qui réfléchit pas trop et pas là pour.
Non, à mon avis, vraiment, Miphos... Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Miphos laisse quand même Chrysaor entretenir une résistance qu'il combat. Parce que c'est son frère. Pourquoi Chrysaor Orion a-t-il réussi aussi longtemps à jouer ce rôle d'agent double? Mais parce que Miphos l'aime. Et en fait, il y a toute une dimension comme ça. C'est-à-dire que d'un coup, rétroactivement, on comprend pourquoi est-ce que ce personnage est à ce poste-là. Et pourquoi lui, contrairement aux autres, il a le droit de rêver. Parce qu'en fait, lui, il est en odeur de sainteté par rapport au tyran, en fait. Le tyran le laisse libre, il le laisse parce que c'est son frère.
Ouais, il n'aurait pas été le frère de Miphos, il serait mort depuis longtemps.
Exactement. Et donc ça c'est intéressant aussi de voir. Alors d'ailleurs, et on voit bien la manière dont Miphos, à partir du moment où il développe cette capacité à faire dissoudre la métallite et même à la maîtriser, on voit bien qu'à partir de ce moment-là, que ce frère-là meurt, étant donné qu'il est capable de le réciter depuis nombreux mois. Et ce qui est très intéressant, c'est que avec son pouvoir de métallite, c'est-à-dire de ressusciter des personnages en métallite depuis nombreux mois, Miphos va pouvoir ressusciter Chrysaor Orion tel qu'il aurait été s'il n'avait jamais connu les bugs. Et oui. C'est-à-dire qu'en fait, il tue, au moment où il tue Chrysaor Orion sur Séléné, il tue le Chrysaor qui a connu les bugs et ce Chrysaor-là, et il en récupérera un autre.
Oui, en fait, pour expliquer un peu aux auditeurs, oui, on parle de résurrection. Ouais, en fait, à partir des faits de l'ombre monde.
Ouais, peut-être.
Alors, je vais simplifier. Bah, non, mais
moi, j'ai pas envie.
Je simplifie.
Non, mais j'ai pas envie parce que je trouve ça important de le découvrir en.
D'accord.
En
très bien. Alors, on va rester le flou parce que dans Néant, on apprend quand même quelque
chose.
Désolé,
chers auditeurs, mais c'est pour vous.
En fait, je pense que ce podcast mériterait d'être enregistré quand Cosmos sera sorti.
Dans Néant, on apprend quelque.
Diffusé quand Cosmos sera sorti.
Dans Néant, on apprend quelque chose quand même. Alors là, on l'apprend par l'intermédiaire des lettres de Classis qui sont à la fin du. À la fin de Néant. Mais en fait, ce qu'on apprend, c'est que Miphos et Chrysaor, sauf si c'est un peu flou, n'ont pas les mêmes parents.
Ah oui, ça c'est bon, on l'apprend dans Néant.
C'est-à-dire que Miphos,
Kadria. J'avais complètement oublié.
Putain, c'est vrai que
Miphos, Kadria est le fils naturel de Stentor Kadria qui a inventé la métallite et d'Adeline Kadria. Qui est une comtesse, c'est pianiste, et Chrysaor, quant à lui, serait le fils d'Adeline Kadria et de l'empereur Bran Oberon. Et après un abominable chantage, Stentor fait en sorte que Bran adopte Miphos et le nomme régent.
Alors que ça aurait dû être Chrysaor, le bel enfant.
Le bel enfant, voilà.
Le divin enfant.
Voilà,
en fait.
L'empereur, en fait, il était empereur né, quoi. En fait, c'était censé
l'aîné, hein.
Non,
Chrysaor naît quand Miphos a 4 ans, un truc comme ça.
Exactement. Ouais.
C'est drôle,
là, c'est pareil.
Lune...
Il faut, enfin, là, encore une fois, c'est dommage. On ne sait pas trop si vous, auditeurs, vous aurez lu Sens Cosmo à la sortie de ce podcast. C'est ça qui est dommage parce que vraiment, on a envie de parler parce que je trouve qu'on ne comprend bien ces relations, ces personnages et la façon dont ils évoluent à travers le jeu que lorsqu'on a tout vu de ces personnages, lorsqu'on a tout compris. Parce qu'ils ont une relation qui est très très complexe, très particulière. Et Miphos fait des choses qui peuvent apparaître pour les bugs comme des choses horribles. Par exemple, tuer son frère, on se dit « Ah mon Dieu, il a tué son frère !»
Mais en fait,
d'enfoiré ! Il n'en a rien à foutre. Parce que ce qu'il aime, c'est pas le corps de son frère en métallite, c'est son frère, c'est l'âme de son frère, parce que c'est la vision du monde de Miphos.
Enfin, il a quand même tué l'âme de son frère dans le fond, hein, parce que quand tu tues le frère qui a connu la résistance et qui s'est battu contre lui, il a quand même et qui pourra pas le ressusciter.
Si, il pourra ressusciter, mais il ne connaîtra pas les bugs.
Ouais, bah, c'est une grosse partie de lui, quoi, quand même. Hein,
Oui,
c'est peut-être pas la partie que Miphos apprécie.
Voilà, c'est peut-être pas la partie que Miphos
apprécie. Oui, enfin bon, c'est pas ce qu'il veut. C'est de l'humour. C'est de l'amour sélectif.
Oui, voilà, tout à fait.
Ah, c'est de l'amour de tyran. Hein. Je t'aime énormément, mais cette
comme
partie-là
comme j'ai envie.
De toi, j'aime pas trop. Alors, je vais te couper un bras.
Mais c'est ça. Mais du coup, on ne peut comprendre bien pourquoi Miphos fait ça que lorsqu'on a la totalité de la psychogénie.
En gros, Miphos est un enfoiré, mais il se donne de bonnes raisons de le faire.
Oui, mais je suis d'accord. Et c'est un enfoiré du point de vue des joueurs. C'est un enfoiré
du point de vue d'un psychologue aussi.
C'est un névrotique.
T'as raison.
Du point de vue d'un psychologue.
Le mec, il tue. Vous avez raison. C'est un scandale. Il tue un robot immortel qui vit depuis 500 ans. Enfin, je veux dire, vous avez une vision très humaniste, très humanisée de Chrysaor. Enfin, je veux dire.
Ah oui, parce qu'à partir du moment où t'as.
C'est plus une machine qu'un homme maintenant. Ah oui, à partir du moment où t'as couché avec lui, là, c'est vrai que. Je comprends, Morgane. Je comprends le point de vue de ton personnage. Mais voilà, vous voyez comme c'est un point de vue d'humain. C'est un point de vue de personnage. Miphos n'est pas un être humain. Miphos est un dieu immortel. Enfin, c'est un.
Miphos est un enfoiré.
Oui, Miphos est un enfoiré. D'accord, très bien. Non, mais c'est
effectivement.
C'est pas incompatible. Il peut être un dieu immortel enfoiré.
Voilà.
Il aurait pu être un dieu immortel sympa.
En tout cas.
Genre le dieu des clowns. Ça aurait été cool.
En tout cas, voilà. Pour un
flippant.
Pour un immortel.
T'imagines tout le monde avec un gros nez rouge.
C'est clair. Oh, les petits enfants.
Flippant, en fait.
Pour un immortel, je trouve ça vachement intéressant que Chrysaor, lui, par contre, ait su garder son côté humain. et même et si je ne suis pas sûr qu'un idéal politique soit si humain que ça, mais bon. Ça, c'est
même si je pense qu'en fait, c'est pas possible. Ça se voit que c'est un personnage de jeu. Parce qu'au bout de 500 ans, à mon avis, faut vachement être balèze pour garder son idéal. Quoi.
De toute façon, vivre dans robot, l'idéal, c'est sortir de la réalité. Donc à partir de là...
Idéal. Oui, puis en fait, c'est pareil. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment une réflexion d'humain, ce que tu viens de dire, là, Maxime. Oh putain, faut quand même être vachement fort pour vivre 500 ans et garder son idéal.
Oui, parce
mais
que
c'est
s'il
une
est...
machine.
S'il est programmé 500 ans,
c'est
ans,
une machine.
Toi la machine.
Il est devenu une machine. C'est toi la machine. Non, mais voilà, il y a aussi ce côté-là, il y a aussi cette dimension-là chez ces deux personnages. Ce sont quand même des.
C'est des archétypes des... écrits par un mec, donc forcément tu fais ce que tu veux.
C'est ça. C'est ça.
Mais c'est vrai, après, Miphos pourra toujours t'opposer que quand tu aimes quelqu'un, que ce soit celui que t'es connu ou celui que tu n'es pas connu, qu'importe tant qu'il vit, tant qu'il existe.
Moi, derrière ça, il y avait aussi l'idée de l'idéalisme, en fait. Les deux sont idéalistes. Chacun à leur manière. Mais ils sont idéalistes tous les deux. Et la réflexion de la vie est très vraie. On ne peut pas être idéaliste sans sortir du monde, quelque part. Et l'un comme l'autre, ils sont...
Ils n'ont plus prise sur rien.
De toute façon, quand tu es dans un paradigme, tu es forcément à la masse. Si tu ne vois pas l'étendue du spectre...
En tout cas, tant que
tu
n'as pas
tant
que tu n'as pas conscience de du paradigme dans lequel tu évolues, en tout cas.
Oui.
Ouais.
J'aime bien les dernières phrases que tu viens de dire. Tu peux les transposer dans quasiment tous les podcasts qu'on a fait récemment. Je pense que ça va être un mème que je vais essayer de faire dans les podcasts. Je dirais ça maintenant. Tu sais, à partir du moment où tu es dans un paradigme, c'est un spectre. Tu te voiles la face. Je vais essayer de le sortir. C'est génial. Tu peux le sortir dans tous les podcasts qu'on fait.
Et vous pouvez aussi le sortir dans des dîners mondains ou à une réunion entre collègues. Vous verrez, vous allez passer pour quelqu'un de très intelligent.
Bah, on parlait du Zul en préparation de ce podcast. Enfin, en préparation de ce podcast.
Oui, parce qu'il ressemble beaucoup à Chrysor.
Mais non, mais c'est très intéressant comme réflexion. Moi, je trouve pas ça si rigolo que ça, en fait.
C'est vrai qu'il est très idéaliste. Oui.
Moi, je trouve que justement...
Je ne le connais pas personnellement.
Non,
pas,
moi non plus, mais à travers
ces vidéos...
Et justement, je voulais en parler par rapport à ça. Dans une des vidéos d'Usune, il y a la phrase... Il n'y a pas la phrase que Flavie vient de prononcer, mais presque. Quand il dit que justement... alors, je crois que c'est dans celui sur l'économiste, il me semble, où il dit... Mes chers contemporains, l'émission... YouTube, faut la regarder parce qu'elle est quand même très intéressante, en fait, tout simplement, pas quand même, très intéressante. Il y a cette phrase où il dit « Se libérer, c'est prendre conscience de ses propres déterminismes ».
C'est Spinoza, ça.
C'est Spinoza, mais il dit justement que son documentaire est très spinozien et il a entièrement raison. Et justement, je me demande... Jusqu'où la phrase que Fanny vient de dire n'est pas très très proche de Usul et justement nous ramène à ce personnage de Chrysor Orion qui est un petit peu dans la même logique en fait.
Il y a aussi un autre truc, c'est que ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas grand chose qui ait changé sur la Lune, c'est à partir du moment où tu restes dans un idéal et où tu essayes de vivre dedans. Bah,
mais sur la Lune, c'est l'individualisme.
Non, mais quel que soit ce que tu essayes de changer. Bah, t'es tellement à l'extérieur du monde qu'il n'y a rien qui change, en fait. Tu as tout à gagner à faire que les choses restent telles qu'elles sont.
Mais en fait, c'est ça. Le point essentiel de Chrysor, c'est que c'est un opposé total de l'idéalisme sélénite. L'idéalisme sélénite repose sur l'économie de marché, l'individualisme et le libéralisme. En gros, avec tous ces travers du divertissement, passant par l'oubli de soi, l'oubli de la mort, etc. Et Chrysor, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que lui, il est plutôt. Il croit en la collectivité, en l'éveil de la masse, faire bouger la foule, etc.
Donc, le grand soir.
Le grand soir, presque, ouais. C'est intéressant, voilà. Morgan, tu voulais ajouter un truc là-dessus ?
Absolument rien.
Non. Mais voilà, enfin, il y a.
C'est juste à rappeler qu'il était beau.
Je pense que ce personnage de Chrysor mériterait un podcast retour, peut-être au cours d'un podcast sur Miphos Quadria, par exemple, où de toute façon on sera amené à reparler de Chrysor.
On fera un podcast Les Quadria.
Ça veut dire que tu vas pas vraiment nous faire de spoilers sur sa jeunesse, en fait.
Bah moi je peux te parler de sa jeunesse si tu veux un petit peu, mais ça va pas être.
Tu vois une teuf à l'université. Bah voilà.
Ouais. Et en gros, il a une enfance assez heureuse. Lui, il a la chance d'être aimé de sa mère. Bam, déjà, pour commencer. Non, mais c'est très important, en fait, hein, parce que lui, il est issu d'un...
Lui, il n'a pas de problème
freudien. Il a été désiré. Puisqu'il est, comme l'a précisé Maxime tout à l'heure, Il a été.
Bah, il est le fils de Bran, le fils de l'amour.
Oui, voilà, le fils de l'amour. Bran étant le véritable amant d'Adeline Kadria. Il n'est pas. Voilà. Alors que Stentor, c'est plus son.
C'est plus la corvée.
Son ancien. C'est son premier mari. C'est son ancien. Voilà, elle l'a aimé peut-être à un moment donné, et puis c'est terminé, quoi. Donc, déjà, il y a ce côté-là. Et justement, au moment où elle va accoucher ou faire l'amour. Enfin, comment dire. Faire Miphos Kadria, je ne sais pas, le mettre au monde, elle a l'espoir que Miphos sauve son couple avec Stentor. Alors que ça va foirer évidemment parce que c'est vraiment la pire manière de faire des enfants.
Un enfant
ne sauvera pas un couple. Au contraire,
il le sublime, mais
il accentuera toutes les tensions s'il y en avait qui existaient. Donc au contraire, l'enfant c'est le test ultime en fait d'un couple. Quoi. Si le couple survit à la naissance d'un enfant, c'est que c'est du solide. Et donc première erreur. Et là, elle va rencontrer Bran.
Qui a déjà plus de 60 piges à ce moment-là, je crois d'ailleurs.
Oui, tout à fait, hein. Ouais, carrément. Mais elle commence à être assez âgée aussi. Hein. Elle a une quarantaine d'années, peut-être, je ne sais plus. Ouais. Enfin bon, bref, ils ont énormément d'écart.
A priori, d'après la biologie.
Ils ont énormément d'écart, ça c'est clair. Bon, après, voilà, c'est un empire, les concubines, tout ça. Il y a aussi une pression de la presse pour que Bran obtienne un enfant assez rapidement.
Ouais.
Donc voilà, il y a toute une dimension que je ne vais pas raconter ici, mais qui est bien expliquée dans
résumé, Bran voulait que ce soit Chrysaor qui hérite, parce que c'est lui son enfant de sang, même s'il voulait bien aussi adopter Miphos et le rendre immortel.
C'est plus compliqué que ça encore, mais bon. Oui.
Quand Stentor apprend qu'en fait, Chrysaor n'est pas son fils, mais qu'il n'y a que Miphos, il dit, non, je change les termes de notre accord, c'est mon fils qui sera sur le trône, et puis c'est tout d'abord.
Il rappelle juste à Bran sa promesse. Il lui dit, tu as promis que mon fils irait sur le trône. Et parce qu'en fait, Bran a dit mon fils en pensant Chrysaor. Et lui, il a dit, non, tu as promis que ce serait mon fils. Or, je viens d'apprendre que Chrysaor n'est pas mon fils, donc Miphos montera sur le trône, on est bien d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il lui rappelle.
Il avait
un chantage. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est malhonnête.
Il avait une pression. Il avait un moyen de pression, Stentor. Il avait aussi une connaissance. Il avait des artefacts sur le bio.
On serait vraiment trop spoilé.
Mais
il y a effectivement. Il y a quelque chose que Stentor a, que Bran veut. Et donc, il doit.
C'est dans le néant, c'est le trône. Mais on n'en sait pas plus.
Il doit obéir à Stentor. Et donc, voilà. Déjà, ça, je trouve que. Si on veut parler de l'enfance des deux personnages, ça explique tellement de choses sur leur psychologie respective.
Une autre question, est-ce que Chrysaor sait qu'il est le fils de Bran Oberon?
Je crois pas.
Est-ce qu'il le sait?
Non, je pense pas.
Ce qui est étonnant, alors c'est rigolo, qu'il ait hérité de l'idéal de Bran sans le savoir.
Ouais.
Du coup, de cet idéal de démocratie, d'équilibre, de collectivité, faire sauter
les... vision génétique du déterminisme, peut-être.
Ouais, mais non, moi je pense qu'il en a hérité par la force des choses, quoi. C'est en voyant son frère devenir fou que ça l'a aussi poussé vers l'utopie.
Non, ça fait juste une coïncidence rigolote, hein. Je parlais pas de gêne.
Il y en a peut-être pas une.
Enfin, je sais pas.
Il n'y a jamais de coïncidence. Donc oui, il y a cette dimension-là. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Alors attends, faut que je remonte le fil des événements. Donc après cela.
Et cette histoire d'attentat alors?
Mais il faut. Je sais pas si j'ai. Mais il faut s'attuer, vous voulez vraiment tout spoiler? Il y aura une enquête qui sera faite autour de l'attentat, qui s'est déroulée en avril 562. Et on conclura effectivement un attentat. Il y a bel et bien quelqu'un qui a essayé de tuer Chrysaor Kadria. Sachant qu'à cette époque-là, Chrysaor Kadria est en course pour l'intendance de la... Enfin, pour le... Pour... Alors, Miphos Kadria est déjà intendant suprême de l'Empire de Bran Oberon, mais 5 ans après, il doit remettre son titre en jeu. Et d'ailleurs, Miphos n'a pas plus que ça l'intention de le conserver. Hein. Il va aux élections, il a fait un excellent boulot pendant 5 ans, mais voilà, il va aux élections naturellement. Et il y a un mec qui se présente en face, qui s'appelle Chrysaor Kadria. Et Chrysaor, lui, par contre, il est, comment dire, très briefé, on va dire, très cajolé par son vrai père, qui est Bran, qui le pousse justement à dire, c'est bien, comme ça, mon fils va pouvoir devenir empereur, mais par les urnes, contrairement à l'autre qui est devenu par chantage. Donc il y a une compétition en fait au sommet entre les deux frères, qui est relayée par les médias, etc. Et là, patatras, en 562 CSH, bam, il y a effectivement un attentat. On met à jour le fait qu'il y a un attentat, et les services de Miphos, donc du gouvernement, puisque Miphos est au gouvernement, lui disent « bon, il y a eu un attentat ». Mais on couvrira le fait que c'est toi. Et Miphos dit « moi, jamais fait d'attentat sur mon frangin ». Donc on ne sait pas qui a fait cet attentat. Mais ce qu'on suppose, c'est que c'est la noblesse martienne qui, admirant le travail effectué par Miphos toutes ces années, a décidé d'éliminer son frère de la course. C'est-à-dire, en fait, c'est pas Miphos qui est directement responsable. C'est on sait pas. C'est complexe.
Moi, j'ai
c'est
fait
complexe.
Le choix dans Sens Mort, quand les bugs sont allés sur Mars à un moment, pour le voter. J'ai fait le choix qu'un quadrilla de Cosmo, vu que les bugs, à ce moment, ils se posaient beaucoup de questions, il y a un quadrilla de Cosmo qui est passé, qui leur a filé des enregistrements.
Caché, enfin, ils savent pas que c'est un quadrilla de Cosmo.
Ouais, ils l'ont découvert assez, ils ont compris. Hein. Le mec, il a des grands cheveux. Seulement, ils n'ont pas compris, mais ils ont compris après quand ils l'ont vu. Et du coup, le mec leur fait les enregistrements de Cosmo et Rebirth. Et chaque enregistrement, en fait, c'était... Alors, on ne sait pas si c'est vrai, ça a peut-être été trafiqué. Mais c'était une preuve que tout ce qu'ils croient que Miphos a fait, c'était du bullshit. Donc, ils ont vu que les parents d'Anthony, ils n'étaient pas morts à cause d'un attentat, mais à cause d'un accident mécanique. Que Chrysaor, ce n'était pas commandité par Miphos. Et ils ont vu...
Lester et Uriel.
Ils ont vu aussi que Lester et Uriel, pareil, c'était...
Un règlement de compte
entre nobles. Du coup, ça leur a foutu une grosse mine. C'était le quadrilla qui leur a filé ça. Il a dit, vous cherchez la vérité, bah, vous pouvez aussi la trouver.
Ouais.
Et la vérité leur a fait bien mal. Et j'ai choisi de dire ça. Moi, j'ai dit, non, c'était pas un attentat sur Chrysaor. Ce qui a un peu fait mal
mais
à Chrysaor.
Mais c'est très bien, parce que ça montre aussi que quand on veut voir des tyrans, on les voit, tu vois.
Voilà, théorie du complot, bah, tout ça, ça les
non,
a un peu
calmés.
Non,
puis c'est toute la théorie des ennemis. Enfin, quand t'as décidé qu'un tel était son ennemi, tu relieras toutes ses actions à travers un filtre qui n'est pas forcément celui de la vérité.
Ce qui est intéressant, c'est que on voit aussi que, du coup, à travers ce que je vous explique là, ce qui est expliqué dans Sens Cosmos, c'est qu'on comprend en fait que Miphos, c'est pas un self-made man. Il s'est pas fait tout seul non plus. Il y a une frange conservatrice de la noble chambre qui le soutient, et c'est pour ça en fait que c'est un. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la démocratie? Qu'est-ce que c'est le Nero de Bran Oberon? C'est son rêve de démocratie à lui, parce que lui, il a vu ses parents se faire massacrer par la tyrannie, en fait, par l'oppression du pouvoir et de la dictature. Ils ont vécu pleinement la dictature comme une oppression. Et donc pour lui, le trône est maudit. Pour Bran, le trône est maudit. Et donc il veut que ce trône cesse de perpétrer sa malédiction. Que ce soit aux Oberon ou aux Descendignos, peu importe. Il veut ça. Il veut la démocratie. Le problème, c'est que c'est sa démocratie à lui. Et que la noblesse, elle a pas envie de la démocratie. Elle a envie de l'aristocratie, elle a envie. Et donc, quand il donne le rôle d'entendant suprême à Miphos, la noblesse se frotte les mains. Elle dit, voilà, l'empereur ne pourra jamais mourir, mais on a notre intendant suprême qui est en fait la ligne directe. C'est-à-dire, c'est ça. Et en fait, il projette... c'est comme si Elisabeth II devenait immortelle et qu'elle donnait à son fils le trône. Et donc, la noblesse dit, mais c'est pas grave, on a un empereur, c'est Miphos Kadria. C'est notre Miphos à nous. Et donc, quand il y a des élections, qu'est-ce qu'ils font, les nobles? Ben, ils piratent. Et donc, en fait, le tyran ne l'est pas uniquement par lui-même. C'est un système tout entier qui n'est pas une
intelligence noire au sommet d'une pyramide. Alors,
si, quand même.
Enfin, oui, mais
y a,
qui œuvre
plus,
ça, il a des soutiens qui l'ont fait.
Tout à fait.
Ils l'ont mis là, et après, bah, il s'arrange de cette position. Hein,
voilà,
aussi.
C'est ça.
Voilà,
c'est ça. Ça lui permet de faire beaucoup de choses.
On va pas cracher, enfin, on va pas nier sa complaisance, mais.
Et donc il y a Maxime qui est en train de vérifier un polynôme, donc on va le laisser faire ses calculs. C'est incroyable. Il se passe des choses incroyables dans ce podcast. Voilà. Mais il y a ça. Il y a aussi le fait. Pourquoi Miphos, alors que Miphos et Chrysaor ont été adoptés par Oberon, par Bran. Alors Chrysaor au quadrilla, c'est quand même qu'il est le fils adoptif de Bran. Juste un point, Maxime, là-dessus, parce que tu as posé la question tout à l'heure. Chrysaor sait qu'il est le fils adoptif de Bran Oberon.
Adoptif.
Il ne sait pas. Ah oui, ça c'est sûr.
Mais génétique, il ne sait pas.
Mais il ne sait pas qu'il est. Bah oui, puisque
oui.
Vous le savez, Miphos est le fils adoptif de Bran. Et pourquoi est-ce que ils s'appellent Kadria tous les deux? Parce que Miphos a demandé à Bran de conserver son nom. Il a dit ok, tu peux, si t'es magouille politique, j'en ai rien à foutre, tu peux faire ce que tu veux, mais je garderai le nom de mon père. Et c'est pour ça qu'ils ont conservé le nom Kadria, par exemple, qu'ils n'ont pas le nom de. Parce qu'on peut se poser la question, on se dit.
Aurait pu s'appeler Chrysaor Oberon.
Chrysaor aurait pu tout à fait s'appeler Chrysaor Oberon.
Mais là, ça aurait été grillé tout de suite.
Bah non, il aurait pu porter le nom parce qu'il est adopté. Il est adopté.
Ah oui.
Mais c'est pas que ça aurait été grillé, ça aurait été. Mais c'est Miphos qui a empêché Bran de le faire.
Ah ouais.
Oui, il a dit à Bran.
Je veux garder mon nom.
Ok pour l'adoption parce que ça t'arrange et tout ça, mais je veux que nous gardions le nom de notre père. Sous-entendu, ça te rappellera le crime que t'as commis.
Mais du coup, Miphos, lui, sait les origines de Chrysaor.
Miphos, il sait beaucoup de choses.
Les origines de
c'est
son
la rune
frère,
de Cosmo.
Il
sait beaucoup de choses. Je sais pas. À ce moment-là, au moment où il fait ce chantage, je sais pas. Je sais pas. Oui, c'est possible. Et c'est pas dit dans l'histoire.
Il est pas censé avoir 8 ans.
On sait que non, pas au moment où il est adopté. C'est beaucoup plus tard. Je me sens que c'est plus tard. Et donc, on se doute qu'il sait beaucoup de choses, mais on sait pas exactement ce qu'il sait et ce qu'il sait pas. Peut-être tout. Peut-être rien. On ne sait pas. Il y a plein de flous qui sont laissés aussi pour à l'interprétation du meneur en fonction
et
de ce qu'il a.
Peut-être qu'avec Cosmo,
on saura un petit peu mieux. Plus. Tout à fait.
Comme
c'est
un
joli leitmotiv, ça.
Ouais. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur la relation des deux frères. Il y aurait plein de choses à dire en fait parce qu'ils sont très symétriques avec Miphos. En fait, il y a une symétrie.
C'est à s'y méprendre.
Comme disait
Flavie
tout à l'heure, avec le trip de la boucle d'oreille droite et la boucle d'oreille gauche, ce sont des personnages qui ont été conçus dès le début, et là je dis dès 1999, qui ont été conçus comme des personnages symétriques. Comme les deux reflets d'un miroir. Il y en a un, c'est la face, le côté pile et le côté face. Et donc, je pense vraiment que ce podcast mériterait d'être peut-être revisité à l'aune de celui qu'on enregistrera sur Miphos, si un jour on peut en enregistrer un. Parce que Miphos, c'est juste...
Mais il y en a pour 5 heures. Hein.
Ouais, Miphos, c'est juste incroyable. Hein.
Miphos partie 1.
Il y a une thèse, parce que c'est un personnage qui est très très compliqué
quand
et puis très mystérieux.
Ou alors on fera
la demi-fosse.
Oh, joli. Oh, ça, c'est beau.
Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci, cher Denis.
Nous ferons donc une demi-fosse. Bon, merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci à Morgane, merci à Flavie d'avoir animé ce podcast.
C'était un plaisir. J'étais toujours là.
Plaisir partagé.
Je suis pas toujours là
animé.
Dans cette saison, mais
animé.
Voilà.
Je compte pour de la merde, c'est ça moi.
Animé, ce podcast.
Il boude.
Oui, il est triste.
Tu as fait de très bonnes blagues aussi.
C'est gentil, merci.
Et il a résolu un polynôme.
Je
sais pas ce que c'est un polynôme.
Merci.
Un c'est un mot contre triple.
Tu vois un homme, ce que t'as à la maison, c'est quand il y en a plusieurs.
Oh putain. Allez, on vous laisse là-dessus. À bientôt.
Beaucoup de love. Salut sur Chrysaor.
Ouais, à plus.
Bisous.